Yes. Donc, on est dans Jean au chapitre 16 et on va juste lire le verset 33, dans Jean 16, verset 33. Ici, c'est Jésus qui parle, qui dit « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » On va prier. Père Céleste, on veut te louer cet après-midi, parce que oui, Éternel, tu as vaincu le monde. Et Seigneur, c'était une réalité il y a 2000 ans, puis c'est là encore aujourd'hui, Seigneur, ça ne changera jamais. Tu as vaincu le monde, et Seigneur, on te prie que tu puisses nous ouvrir les yeux sur ces vérités cet après-midi, nous toucher par ton esprit face à ta parole qu'on va considérer. Merci, Éternel Dieu, parce que tu es le Dieu inébranlable, tu es une forteresse, un rocher sur lequel on peut reposer. Et Père, on te loue à travers ces temps qu'on vit, que tu es comme ça et que tu ne changeras jamais. Donc Seigneur, utilise ce temps cet après-midi, je te prie humblement de pouvoir utiliser ma bouche pour proclamer ta parole et que tu puisses travailler par ton esprit pour nous enseigner et pour faire ton œuvre que juste toi peux faire. Amen.
Amen.
Amen. Donc, ici, juste pour vous mettre en contexte, quand Jésus dit ces paroles-là, c'est juste avant son arrestation. Pas longtemps après, il y a eu l'arrestation de Jésus et il est en train d'avertir les disciples de qu'est-ce qui va arriver. Il les avertit des persécutions qui vont venir et qu'il va devoir quitter et que le Saint-Esprit va venir. Donc, il parle ici du Consolateur qu'il va envoyer. Et au risque de vous décourager, là, je tiens à nous rappeler encore aujourd'hui qu'on vit dans un monde qui est dominé par Satan. Satan qui est le prince de ce monde. Évidemment, Dieu est souverain sur tout ça, mais on est dans le monde, dans le système qui est dominé par Satan. On voit la mort, on voit tous les effets du péché dans nos vies, les conséquences que ça a autour de nous. Et puis, on a aussi beau essayer de ne pas pécher nous-mêmes, mais on en est incapable. Non seulement on en est incapable, mais en plus, on refait souvent les mêmes péchés. On a nos propres tendances à chacun et on tombe souvent dans les mêmes pièges de notre chair. Et non seulement ça, mais à chaque jour, quotidiennement, on croise beaucoup de gens qui sont malheureusement sans Christ, qui sont perdus et qui se dirigent vers une éternité sans Dieu. Et même en tant qu'enfant de Dieu, on peut être porté, en regardant tout ça face à toutes ces choses-là que je viens de mentionner, on peut être porté à croire que Satan a triomphé. Ça peut être notre disposition d'esprit. On peut croire que Satan a gagné, que c'est lui qui a triomphé, que le monde a la victoire. Et on peut angoisser face à ces choses-là. On peut se décourager. On peut même penser et agir comme si on était soumis à Satan face à ces choses, comme si on était esclave du péché. Mais dans le verset qu'on vient de lire dans Jean 16, verset 33, Christ indique le contraire. Christ indique qu'il a vaincu le monde. Donc, à la lumière de ces choses-là, il y a tout ce que j'ai mentionné qui se passe autour de nous dans le monde, et même dans nos vies avec le péché, qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça implique que Jésus ait vaincu le monde? Et on va essayer de répondre à cette question-là cet après-midi à travers le message. Mais j'aimerais commencer en vous disant que, comme Christ a vaincu le monde, ça implique premièrement qu'on peut être en paix. Donc d'abord, face à ces choses-là, on peut être en paix. Malgré toutes les persécutions, toutes les épreuves, toutes les tribulations, on peut avoir la paix. Donc, on peut ne pas être angoissé par tout ça, par toutes ces épreuves qui nous attendent dans le monde. Et j'aimerais vous faire lire dans Romains, au chapitre 8, le verset 37, Romains 8, 37. Romains 8, 37, qui nous dit « Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. » car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. La victoire ne peut pas nous être retirée. Jésus-Christ a acquis la victoire, puis elle est permanente, elle est définitive. Donc, on doit avoir la paix, on peut avoir cette paix-là en Dieu, mais pas n'importe quelle sorte de paix aussi. Quand on entend le mot paix dans le monde, ça peut vouloir dire toutes sortes de choses. Mais ici, on parle de quelque chose de distinctif. On parle de la paix en Christ. On parle de la paix de Dieu. Et la paix de Dieu, pensez-y une seconde. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quoi, la paix de Dieu? La paix de Dieu, ça implique la paix que Dieu a. Et si on pense une seconde à OK, comment est Dieu? Dieu, on parle d'un être qui connaît toute chose, qui est omniscient, il connaît tout, il sait tout ce qui va se passer. Puis non seulement il sait tout, il est souverain sur toute chose. Il est au contrôle de toute chose. Il accomplit son plan parfait. Et il est immuable, on l'a dit, il ne changera jamais, il est inébranlable. Dieu est dans une gloire infinie. OK, tout ça, ce sont des attributs de Dieu que vous connaissez. Et ça, c'est une paix. Dieu est dans cette paix-là, de savoir tout ça, d'être au contrôle de tout ça. C'est une paix qu'on ne peut pas comprendre, en fait. Et pourquoi je dis qu'on ne peut pas la comprendre? Parce que, on ne peut pas comprendre toute la gloire de Dieu, puis comment Dieu est pleinement. Mais c'est exactement une paix comme ça que Dieu nous promet, parce que si on regarde dans Philippiens chapitre 4, le verset 7, ce que ça nous dit, dans Philippiens 4, 7, on peut lire « Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Ça surpasse toute intelligence. On ne peut pas comprendre cette paix-là. On peut l'expérimenter, la vivre en tant que chrétien dans la vie, par la vie de Jésus qui est en nous. On ne peut pas la comprendre rationnellement. Ça dépasse notre limite, nos limitations humaines. La paix que Dieu a, c'est ce que Dieu nous promet. Comment est-ce qu'on peut avoir ça? C'est simplement par la foi, par le fruit de l'Esprit en nous, la vie de Christ en nous, en se rappelant et en croyant que nous avons en nous l'Esprit de celui qui a triomphé sur le monde. En se confiant en lui, simplement. Et comme Christ a vaincu le monde, ça implique que malgré la guerre spirituelle, on en a parlé aussi, il y a une guerre spirituelle en ce moment, et malgré tout ce que j'ai mentionné, on connaît l'issue de ces choses, on connaît l'issue de cette guerre spirituelle. On connaît que Christ a la victoire et qu'elle est définitive. On a la certitude de cette victoire-là. Donc, pourquoi est-ce qu'on ne serait pas en paix à la lumière de ces choses-là? On le sait qu'on est du côté du vainqueur par cet héritage qu'on a en lui, il nous donne la victoire. Donc, on peut avoir cette paix. Ça implique ça, que Christ a vaincu le monde. Qu'est-ce que ça implique d'autre? J'aimerais vous dire, deuxièmement, cet après-midi, que comme Christ a vaincu le monde, ça implique qu'on peut prendre courage face au monde. On peut avoir la paix, mais on peut prendre courage. J'ai parlé d'être découragé, puis que ça pourrait nous décourager toutes ces circonstances-là dans le monde. Mais j'aimerais vous raconter une histoire. En 2005, il y a un retraité de la Marine Royale anglaise, un homme qui est nommé Dom Mee. Et cet homme-là a voulu battre le record de vitesse pour la traversée de l'Atlantique en voilier. Et ça faisait des heures, pendant qu'il était en train d'essayer de battre ce record-là, ça faisait des heures qu'il avait perdu le contrôle de son bateau. Et il essayait, tant bien que mal, de rester agrippé à la quille. Là, je connais pas tant que ça. J'ai jamais fait de bateau vraiment. Là. La quille, c'est de ce que j'ai compris, là, c'est le bout au milieu, en dessous du bateau, qui fait en sorte que ça va l'empêcher de chavirer. Là. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui connaît ça ici. Là. Mais, bref, son bateau avait chaviré, puis il se tenait après ça, en dessous du bateau. Donc, c'est ça. ça allait pas très bien au milieu de l'Atlantique, comme ça. Et voyez-vous, ce que M. Mee savait pas, avant de commencer son voyage pour battre le record, c'est qu'il partait dans ce qui allait être la saison des ouragans dans l'Atlantique la plus active de ce qu'on connaisse de notre histoire. Il y a eu énormément d'ouragans cette année-là et il allait rencontrer un ouragan qui s'appelait l'ouragan Rita. Le quatrième ouragan le plus intense de tous les ouragans qui ont frappé l'Atlantique. Fait que pour l'aider à battre son record, il y avait du vent, là, mais je pense... Fait que pendant environ 5 heures de temps, imaginez-vous, 5 heures, c'est lui qui raconte ça, là, il dit, pendant 5 heures de temps, à toutes les 3 minutes environ, il tombait de son bateau, poussé par des vents d'environ 150 km/h dans l'Atlantique, puis des vagues qui atteignaient environ les 60 pieds de haut. Il remontait sur son bateau, il réussissait à se ragripper, puis il était en colère, puis il se prenait après la quille, puis il criait après l'ouragan, « Tu m'auras pas! » Puis, tu sais, il était tout seul au milieu de l'océan, on peut comprendre qu'il essayait de se motiver. Il avait manqué plusieurs... après beaucoup d'heures comme ça, il avait manqué des repas. Il commençait à être faible, il avait très peu dormi. Et bien que c'était extrêmement demandant physiquement... Évidemment, après tout ce temps-là, le plus gros combat, selon ce qu'il dit, c'était un combat qui était mental. Il dit que la solitude à travers cette tempête-là au milieu de l'océan commençait à le rendre complètement fou. Puis à chaque fois qu'il remontait sur le bateau, il devenait plus faible physiquement, plus faible mentalement. Et il acceptait de plus en plus qu'il allait être vaincu. Il se décourageait de plus en plus face à tout ça. Puis là, à un moment donné, il était agrippé sur la quille. Encore une fois, il venait de remonter. Puis il a vu une immense vague qui s'en venait encore vers lui. Puis c'est à ce moment-là qu'il s'est dit, ça y est, je ne vais jamais pouvoir me remettre de celle-là. C'est fini. Puis il a accepté à ce moment-là qu'il allait mourir. Sauf qu'après le choc de la vague, il est tombé de son bateau, encore une fois, évidemment, mais en ressortant sa tête de l'eau, il a vu que l'immense vague avait retourné son bateau. Et cette immense vague-là, comme un miracle, il avait permis de reprendre courage à travers la tempête. Puis il savait à ce moment-là, quand il a vu son bateau qui avait reviré, qu'il avait des chances de survivre. Et plusieurs heures plus tard, une fois qu'il avait réussi à rembarquer dans le bateau, la garde côtière canadienne est venue le secourir. Puis au final, malgré ses 15 années d'expérience dans la marine royale, il en avait fait du voilier. Malgré le fait qu'il savait extrêmement bien naviguer un voilier, malgré les trophées de course, parce qu'il en avait gagné des courses de navigation qu'il avait remportées, cet homme-là, Domi, a confié que l'ouragan, c'était tout simplement un adversaire qui était trop puissant pour lui, qui dépassait toutes ses capacités. Et quand on regarde nos circonstances, quand on regarde les ténèbres du monde, tout ce qui nous entoure, toutes ces persécutions contre les chrétiens, les lois qui diminuent nos libertés, toutes sortes de circonstances comme ça. Il y a énormément de choses, l'avortement, l'euthanasie, il y a beaucoup de choses ténébreuses dans ce monde auxquelles on peut regarder. Et quand on regarde tout ça globalement, on dirait bien qu'on va naviguer dans un gros ouragan, en plein milieu d'un océan sombre et épeurant. Satan et ses anges déchus combattent avec des armes qui nous dépassent. C'est dans le spirituel. Nos capacités humaines ne sont tout simplement pas suffisantes, peu importe notre expérience, peu importe notre pédigré. On n'a rien pour compétitionner, on ne se bat pas avec les mêmes armes. Parce que pour combattre des forces spirituelles, comme la vague qui a permis à Domi de s'en sortir, ça prend une puissance qui combat dans la dimension spirituelle. Ça prend quelque chose de la même... dans la même dimension, si vous voulez, si vous me permettez de m'exprimer comme ça. Donc, par nous-mêmes, ce que ça implique, tout ça, c'est qu'on aurait toutes les raisons de se décourager face à l'adversité dans le monde, face à toutes ces choses. Et on n'est pas capable. Mais on peut prendre courage. Pourquoi on peut prendre courage? On l'a lu. Parce que Christ a vaincu le monde. C'est ce que ça dit. Hein? Si vous regardez le verset, là, je ne sais pas si vous êtes resté là, dans Jean 16, 33, c'est ce que Christ dit. « Prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Donc, pourquoi est-ce qu'on peut prendre courage? Parce qu'il a vaincu le monde. Peut-être que vous vous sentez seul avec votre péché, avec vos circonstances. Mais regardez le verset 32, toujours dans Jean 16. On regarde le verset 32. « Voici l'heure vient, et elle est déjà venue, où vous serez dispersés chacun de son côté. Hein, » chacun allait être dispersé seul un peu de son côté. « Vous me laisserez seul. » Jésus aussi a été seul. « Mais je ne suis pas seul. » Pourquoi? Car le Père est avec moi. On n'est pas seul. Vous n'êtes pas seul. Donc, comme Christ, on n'est pas seul. Parce que non seulement on a l'Esprit, mais on a les frères et sœurs ici dans l'Église. Donc, on peut prendre courage à cause de ça. Pas à cause de nos capacités, pas parce qu'on est expérimenté, pas rien de bon qui peut venir de nous, mais on peut prendre courage parce qu'on a un Dieu qui a vaincu le monde. Et c'est définitif, ça ne changera jamais. Et troisièmement, cet après-midi, non seulement le fait que Christ a vaincu le monde, ça fait en sorte qu'on peut avoir cette paix-là qui dépasse notre compréhension, qui vient de Dieu, la paix de Dieu, ça fait en sorte qu'on peut prendre courage face au monde, pas se décourager, mais prendre courage à cause que Christ a eu la victoire sur le monde, mais ça fait en sorte qu'on peut marcher dans la victoire. Qu'on peut marcher dans la victoire. 1 Jean, tournez avec moi dans 1 Jean au chapitre 2. Et on va lire les versets 3 à 6. 1 Jean 2, 3 à 6. Si nous gardons ses commandements, nous savons par cela que nous l'avons connu. Celui qui dit « Je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur, et la vérité n'est point en lui. Mais l'amour de Dieu est véritablement parfait en celui qui garde sa parole. Par cela, nous savons que nous sommes en lui. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Pourquoi est-ce qu'on peut avoir la paix, prendre courage, toutes ces choses que j'ai mentionnées grâce à la victoire de Jésus-Christ? Parce que la victoire de Christ sur le monde, elle est aussi la nôtre. Il nous la donne. Dieu nous a tout donné. On hérite de cette victoire-là par Jésus. Donc, n'agissons pas comme si on était vaincu. Parce que oui, nous-mêmes, on ne peut pas avoir cette victoire-là, mais on l'a par celui qui l'a acquise pour nous sur la croix. Il est ressuscité, il a acquis cette victoire, et maintenant, quand on se confie en lui, quand on met toute notre confiance en celui qui a mis qui a acquis cette victoire-là, on a cette victoire-là en lui, pour nous-mêmes. On n'est plus esclave du péché. J'ai parlé d'agir comme si on était esclave du péché tout à l'heure en introduction. On n'est plus esclave du péché. C'est ce que la parole de Dieu dit. On était esclave du péché, mais on a été libéré. Et maintenant, on est serviteur du Dieu vivant, de celui qui a eu la victoire sur ce péché, qui nous a libérés du joug du péché. N'agissons pas comme si on était vaincu. La vie de Jésus-Christ était caractérisée par la victoire. C'est-à-dire que Jésus-Christ n'a jamais flanché face au péché, face à Satan. On l'a vu dans la tentation dans le désert, face à Satan. Jésus ramenait tout le temps la parole, puis a triomphé sur Satan comme ça, face à la tentation. Mais tout au long de sa vie sur terre, Jésus n'a jamais flanché, n'a jamais péché aucune fois. Nous, on pêche quotidiennement, mais notre vie ne doit pas être définie par nous-mêmes, mais par Jésus-Christ qui est maintenant notre identité. On est des chrétiens. Jésus est notre vie. Et c'est par sa vie qu'on a la victoire, pas par nos efforts. Donc, que notre vie soit caractérisée par la victoire. Ce qu'on voit ici dans 1 Jean, ça dit qu'on ne doit plus, celui qui, dans le verset 6, celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Est-ce que ça veut dire qu'on pêche jamais? Non, c'est pas ce que la parole enseigne. Mais ça, ce que ça veut dire, c'est que notre vie doit être caractérisée par la victoire. Qu'on ne doit pas constamment marcher dans le péché, que notre vie soit caractérisée par le péché, puis que c'est ça qu'on est esclave de ça, puis que c'est ça qui ressort de nos vies, mais que nos vies soient caractérisées par Jésus, par sa vie. Donc, que notre vie soit aussi caractérisée par cette victoire, pas parce qu'on tombe jamais, puis qu'on pratique parfaitement ses commandements, selon la même idée que ce que Pastor a prêché ce matin. Hein. La parole, on a vu que ça dit que les disciples ont gardé la parole. Ça ne voulait pas dire qu'ils étaient parfaits, puis qu'ils respectaient chaque iota de la loi. Ça voulait dire qu'ils s'accrochaient à Christ, à sa vie, par la foi. Et c'est notre appel encore aujourd'hui. C'est ce qui doit caractériser nos vies. Celui qui a triomphé habite en nous par son Saint-Esprit. Celui qui a triomphé habite en nous, nous donne sa victoire. Et on n'est plus sous l'emprise de Satan, plus esclave du péché, mais esclave de Dieu. Et si ce n'est pas votre cas cet après-midi, que vous n'avez jamais remis votre vie entre les mains du Seigneur comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, je vous appelle cet après-midi à vous tourner vers Dieu, voir que vous ne pourrez jamais avoir la victoire par vous-même. Face au péché, c'est impossible. C'est tout simplement impossible parce qu'on ne se bat pas avec les... Notre chair n'est pas capable de se battre contre ça. Il n'y a que Christ qui peut avoir la victoire là-dessus, qui a eu la victoire là-dessus, qui aura toujours la victoire sur le monde. C'est notre seul espoir. C'est notre seul espoir. Et si on reprend l'image de Dom Mi, comme je l'ai dit, il n'avait pas mangé depuis un certain temps, il n'avait pas beaucoup dormi, il tombait aux 3 minutes à cause du vent, des vagues. On voit dans la parole de Dieu que Jésus-Christ, dans son humanité, souffrait aussi de la faim, de la fatigue. Et moi, ça, je trouve ça tout le temps impressionnant quand je lis la parole, de voir la quantité de fois que ça nous dit que Jésus était parti prier puis pendant la nuit. Puis je me dis, coudonc, il a-tu dormi? Puis on voit que Jésus devait être un homme qui était très fatigué physiquement. Il n'arrêtait jamais, il était tout le temps en train de se déplacer puis de servir les gens autour de lui. Donc lui aussi avait faim, il vivait de la fatigue. C'était très intense tout le temps de son ministère. Il passait son temps à marcher, enseigner, faire des guérisons, il était constamment sollicité, allait prier des nuits de temps et tout ça. Et il était la cible d'attaque aussi. Constante des pharisiens, sans arrêt. Des fois, bon, on va me challenger sur des choses, puis je vais être tout troublé, puis ça va me mijoter en tête pendant longtemps. Puis je ne sais pas si vous êtes pareil, là, des fois, quand quelqu'un remet en doute des décisions que vous prenez ou des choses comme ça, là, ça vient nous angoisser. Là. Puis lui, il était constamment la cible d'attaque des pharisiens qui étaient les leaders à son époque. Ça devait peut-être l'affecter d'une certaine façon, de tout le temps être mis, de vivre des tensions comme ça. Ses disciples étaient souvent incrédules à part de ça. Satan lui-même l'attaquait sans retenue. Mais malgré sa fatigue, malgré sa faim, malgré les immenses vagues et les vents d'une puissance inouïe qui frappaient constamment Jésus, il ne tombait pas. Il ne tombait pas. Il s'accrochait sans jamais broncher à son Père, même si c'était de plus en plus intense et que la fatigue devait s'accumuler à chaque vague qu'il recevait, il s'accrochait à son Père avec le but tout le temps d'accomplir la volonté du Père. Et il marchait seulement dans la volonté du Père malgré les circonstances. Ça me fait penser à cette image de Pierre quand Jésus marche sur les eaux puis il l'appelle à lui, puis qu'il commence à marcher sur les eaux. Mais pourquoi il a commencé à couler? Parce qu'il a commencé à voir les circonstances, les vagues, tout ça. Il a commencé à être saisi de peur, à être incrédule. Il a détourné ses yeux, il a commencé à couler. Puis Jésus l'a sauvé de tout ça, l'a sorti de l'eau. Mais il a commencé à avoir le focus sur ses circonstances plutôt que sur Jésus. Et ça aussi, c'est une image que j'ai déjà mentionnée dans le passé, là. Pour ceux qui ne savaient pas, j'ai fait des cours de théâtre, mais à travers tout ça, à un moment donné, il y avait de la danse, de la chorégraphie, puis il y avait une prof de ballet. OK, j'ai fait du ballet. Vous pouvez imaginer, j'ai pas mis de tutu, OK? Puis là, on faisait des vrilles, OK? Puis là, on tournait, puis je le ferai pas, là. Mais ce que... C'est ça. J'allais dire, au moins, il n'y a pas d'image, mais là, c'est des plans pour que tu viennes. Mais ce que l'enseignante disait, c'est que pour tourner comme ça continuellement, puis pas partir, parce que c'est ça, c'est chorégraphié, c'est beau, c'est fait pour... il faut pas que quelqu'un parte à la dérive puis perde ses points de repère. Là. Fait que pour garder ses points de repère puis réussir à rester centré là où tu dois être, ce qu'elle nous disait, c'est trouvez-vous un point sur le mur auquel vous revenez tout le temps quand vous finissez de faire un tour. Revenez tout le temps sur le même point, comme ça, ça va vous aider à vous centrer et à pas partir à la dérive. Ou si je m'en vais avec mon balai, mais peut-être... Notre point de focus doit constamment être Jésus-Christ. Peu importe les circonstances, peu importe ce qui se passe, ça doit tout le temps être Jésus sur lequel nos yeux reviennent constamment. Si nos yeux ne reviennent pas sur Jésus, c'est sûr qu'on va partir à dérive, puis qu'on va s'en aller n'importe où, puis ça va donner de quoi qui n'est pas très beau. OK? Nos yeux doivent être focusés sur Jésus-Christ, puis tout le temps revenir sur lui, parce que c'est lui, et lui seul, qui va faire en sorte qu'on est stable, qui va faire que ça fonctionne. Nos yeux doivent tout le temps revenir à lui, peu importe les circonstances qui peuvent nous distraire. Si on vient à l'image de Pierre qui marche vers Jésus, peu importe les vagues, peu importe toutes ces choses qui peuvent être épeurantes dans le monde, c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est de garder les yeux fixés sur notre Sauveur. Autrement dit, plutôt que, selon ce qu'on a vu dans 1 Jean 2, plutôt que de marcher, et d'être caractérisé par notre péché, de revenir constamment à Jésus, de s'accrocher à lui et de que nos vies soient caractérisées par Jésus-Christ. Qu'on marche par sa vie, qu'on revienne constamment à lui par la foi, se confier en lui, que nos yeux soient fixés sur Jésus. Donc, cet après-midi, on a vu qu'est-ce que ça fait que Christ a vaincu le monde. Ça implique qu'on a la paix de Dieu. Ça implique toutes sortes d'affaires en passant. Là. C'est pas juste ce que j'ai dit là. J'ai dit 3 points, mais ça implique une immensité de choses, le fait que Christ a vaincu le monde. Mais cet après-midi, on a vu qu'est-ce que ça fait. Ça implique qu'on a la paix de Dieu, qu'on peut pas comprendre. Malgré les circonstances. Selon le monde, là, des fois, les gens, même, on peut être un témoignage comme ça. Je me souviens, à un moment donné, ma fille, Coralie, avait été très malade. C'était difficile, on avait passé plusieurs jours à l'hôpital. Mais j'avais cette paix de Dieu, là, quand même, malgré les circonstances. Je me confiais en Dieu. C'était difficile, oui, mais je priais le Seigneur. Puis le Seigneur me donnait une paix que je ne comprenais pas. Tu sais, humainement, les gens qui ne connaissent pas le Seigneur peuvent être découragés. Tu sais, tu n'as aucun espoir face à des circonstances comme ça. Mais j'avais cette paix de Dieu, là. Puis les gens du monde voient ça, puis ils comprennent. Comment ça se fait que tu as l'air... quand même content de ta situation. Comment ça se fait que tu as l'air en paix malgré tout ça? Donc le Seigneur peut utiliser ça de cette façon-là aussi. On a cette paix de Dieu qui surpasse notre intelligence. On peut prendre courage comme d'homme mis face à la tempête parce que ça ne dépend pas de nous, ça dépend seulement de Dieu qui a déjà eu la victoire. On a la certitude de la victoire. Le fait que Christ a vaincu le monde, ça implique que maintenant, on n'est plus esclave du péché, mes amis, puis on peut marcher dans la victoire. Et on doit marcher dans la victoire, parce que Christ nous a donné cette victoire, et si on se confie en lui, c'est ce qui va caractériser nos vies, c'est ce qui va ressortir de nos vies pour sa gloire. Donc, gloire à Dieu pour ces choses. Enfin, pour finir, qu'est-ce que ça fait? Malgré toutes les ténèbres du monde, malgré tout, toutes les circonstances que j'ai mentionnées, on est victorieux par celui qui est en nous. Puis cette victoire-là, ça vient d'abord par le fait qu'on voit que nous, on est voués à la défaite aussi. Si c'est par nos propres moyens, comme j'ai déjà dit, on ne peut pas faire face à ces choses-là. Donc, c'est un appel aussi à l'humilité, cet après-midi, de voir que par nous-mêmes, on ne peut pas. Puis je sais que c'est facile à dire, que le Seigneur nous ouvre les yeux sur des zones dans nos vies où on peut avoir de l'orgueil, qu'on puisse marcher dans l'humilité face à ces choses-là. Et la victoire sur le monde, c'est la victoire sur le péché, mais ultimement, c'est la victoire sur la mort aussi. Et j'aimerais vous dire, pour terminer, que la vie dure tellement pas longtemps. C'est une vapeur, selon la parole. Ça passe tellement vite. Si vous ne connaissez pas Jésus comme votre sauveur encore, qu'est-ce que vous attendez? Pourquoi attendre? Ça ne vaut pas la peine. Donc, on doit tous voir notre défaite face au monde, mais à la victoire de notre Dieu, de Jésus, et se tourner vers lui, se confier en lui qui nous offre la victoire à bras ouverts par sa vie. On va prier. Ah, Seigneur, merci que ça ne dépend pas de nous. Merci que tu es un Dieu qui est le roi des rois, tu es le Seigneur des Seigneurs, puis il n'y a rien qui est hors de ta portée. Merci, Seigneur, que ton amour n'est pas conditionnel. Ce qu'on fait, Seigneur, ne peut pas nous mériter plus d'amour de ta part. Tu nous as aimés alors qu'on était encore pécheurs. Tu es venu sur la croix pour nous sauver alors qu'on te rejetait. Et Seigneur, maintenant, si on te connaît, ça ne change pas. Ton amour n'est pas conditionnel. Il n'y a pas des journées où tu nous aimes moins parce qu'on est loin de toi. Et Seigneur, on te remercie parce que tu es ce Dieu fidèle. Parce que tu nous donnes cette victoire par ton Fils Jésus, qui malgré toutes les vagues, toutes les circonstances qui arrivaient dans sa vie, c'est incroyable quand on regarde tout ça humainement, qui n'a jamais flanché. Merci Seigneur que tu n'as jamais flanché. Tu as acquis cette victoire-là. Puis que tu as osé prendre notre péché, Seigneur. Toi qui étais pur, sans péché, tu as tout le temps triomphé face au péché. Tu n'as jamais péché, puis tu as décidé volontairement de prendre notre péché sur toi, sur la croix. C'est incroyable ce que tu as fait, Seigneur Dieu. Ouvre-nous les yeux là-dessus. Et qu'on puisse te louer et t'adorer face à ces choses. Merci, Seigneur. Puisses-tu bénir cette assemblée, notre Église, pour le restant de cette semaine. Qu'on puisse être caractérisé par ta vie cette semaine. Qu'on puisse marcher dans ta victoire, éternel Dieu. Au nom de Jésus, notre merveilleux Sauveur. Amen. Amen.